Bonjour monsieur,
Bonjour.
nous avons quelques questions à vous poser par rapport à votre métier
Oui.
qui consiste un peu médiateur des réseaux sociaux.
Je m'appelle Saïdou Gako, je suis le responsable des médiateurs de quartier de Bellevue depuis 3 mois. Et donc j'ai 39 ans. Voilà, ça fait 8 ans ou 9 ans que je suis médiateur social.
Alors un exemple de cas que vous avez géré, qui est grave un peu.
Un cas qu'on a géré, malheureusement, c'est difficile d'en parler, la femme qui a été récemment assassinée sur Bellevue. Je pense que c'est un fait divers. Tout le monde est au courant de ça. On a été mobilisés. Il y a eu des professionnels de l'écoute, comme des psychologues et tout, qui ont été mis à disposition. C'était extrêmement difficile de gérer cette situation.
Alors, je m'appelle Romane Tirel, je suis chargée de projet médiatique et numérique pour l'association nantaise Fragile. Donc, avant d'être chargée de projet, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait une licence d'histoire. Après, j'ai fait un master information communication parce que je voulais être journaliste. Et après, je me suis orientée vers l'éducation aux médias. Donc, c'est plutôt étudier le journalisme que faire du journalisme. Je fais ce métier parce que je l'ai découvert il y a 3-4 ans. Je le fais parce que je m'intéresse aux médias, au journalisme, à comment ça fonctionne. Pourquoi aussi les réseaux sociaux sont gratuits? Pourquoi est-ce que on regarde moins la télé et on est plus sur Internet? Quels sont les dangers? Quels sont les trucs cool? Voilà, tout ce qui se passe autour des médias de manière globale, ça m'intéresse beaucoup et j'aime bien le lien avec le public et je trouve ça chouette.
Bonjour, comment ça se fait qu'il y ait encore des vidéos avec des propos racistes qui ne sont pas bannis alors que la loi interdit ce genre de propos?
Parce qu'il y a des réseaux sociaux, pas tous, mais qui mettent beaucoup de temps à modérer, donc à supprimer. Ça prend beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce travail. Puis je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui font aussi exprès de les garder, même si c'est illégal, parce que ça fait du buzz, parce qu'on en parle.
Certains propos peuvent être identifiés et supprimés très rapidement et le compte bloqué. Par contre, pour d'autres propos, il faut que le compte soit signalé. Certaines personnes, quand ils voient qu'il y a un compte ou une page qui diffuse des propos haineux, demande à ce que cette page ou ce compte soit signalé avant qu'il soit supprimé. Il faut un certain nombre de personnes qui signalent un compte pour qu'il soit supprimé. Moi, je pense que tout le monde a le droit à la liberté d'expression sous condition de respecter la loi, c'est-à-dire de ne pas tenir des propos haineux, racistes ou en tout cas qui tendent à diviser ou à être en infraction avec la loi. Donc voilà, tout le monde a droit. Quel que soit, chacun a le droit d'exprimer son avis, son opinion.
Comment ça se fait qu'une vidéo innocente se fait bannir alors qu'il reste des vidéos porno sur TikTok?
Alors, très difficile question parce que honnêtement, je peux pas te dire pourquoi une vidéo se fait bannir ou pas, notamment si toi tu as l'impression qu'elle respecte le règlement de la plateforme. En fait, on peut pas. Là, pour le coup, je peux pas te dire le côté innocent et porno. Effectivement, le porno, là, ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il y a des vidéos dites pornographiques qui sont encore visibles. Ça répond un peu à la même question qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui là, s'amusent avec les limites, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils disent, non, mais c'est pas de la pornographie, c'est juste, ça y ressemble, mais c'est pas complètement ça, donc ça reste. Pourquoi ça reste? Parce que les gens regardent, et les gens regardent, donc ça rapporte de l'argent à TikTok, notamment.
Moi, je pense qu'il y a des vidéos pornographiques qui circulent et des vidéos innocentes comme vous dites. Il y a des réseaux sociaux quand ils soupçonnent qu'un compte est un faux compte, ils le suppriment dans le doute, ils préfèrent le supprimer.
Pensez-vous que chaque personne mérite la liberté d'expression sur les réseaux?
Alors sur le principe, là tout de suite je dirais oui, parce que en tant qu'humain et humaine, oui, tout le monde devrait avoir accès à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'au bout d'un moment, par contre, si la personne porte des propos problématiques et que elle a eu des avertissements, des choses comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment, on pourrait leur retirer ou leur suspendre leur liberté d'expression sur les plateformes, sachant que tout le reste de la société leur est accessible dans la liberté d'expression. Donc, pourquoi pas?
Est-ce que la liberté d'expression a le droit de toucher aux religions?
Je pense qu'on peut parler de religion dans la liberté d'expression. Il y a une nuance entre la religion et sa religion. La loi française dit qu'on peut parler de religion. On peut parler de religion de manière générale, de l'islam, du judaïsme, d'athéisme et tout ça. Mais votre religion en vous, si vous en avez une ou si vous n'en avez pas, c'est du domaine du privé. Mais on peut parler par exemple d'islam ou de christianisme de manière générale en fait. On peut parler de religion. Mais il ne faut pas qu'on dise ma religion à moi ou autre. Ce que tu pratiques, en quoi tu crois, c'est toi que ça concerne en fait.
Selon vous, quel est le synonyme de la liberté d'expression ?
Le synonyme de la liberté d'expression, je vais reprendre le même mot, donc c'est un peu bizarre comme synonyme, je dirais le libre arbitre, dans le sens de la critique, d'avoir son propre esprit critique et de pouvoir l'exprimer. Donc c'est ça, c'est être éveillé, être éclairé.
Pour moi, le synonyme de la liberté d'expression, c'est le droit de donner son avis, le droit de donner son opinion.
Avez-vous une anecdote en rapport avec la liberté sur les réseaux ?
Alors, c'est une anecdote pas personnelle ni dans mon travail. C'est plus des choses qui reviennent en fait à force de faire des ateliers avec des jeunes ou avec des adultes et tout ça. C'est le mouvement MeToo qui est sorti sur les réseaux sociaux en 2017 où en fait beaucoup de femmes ont témoigné de situations qui n'étaient pas normales mais qui étaient tues. Et donc je trouve que c'est un énorme élan et que ça a été une liberté. Donc la liberté peut s'exprimer sur les réseaux sociaux.
Quelles sont les conséquences de la liberté d'expression ?
Pour moi, les conséquences d'une bonne liberté d'expression, d'une liberté d'expression bien encadrée, c'est tout simplement la démocratie et puis voilà.
Pour moi, quand elle est maîtrisée, quand il y a des limites, donc par exemple la loi ou la modération de contenu, ça apporte le pluralisme, ça apporte le fait qu'on arrive à avoir plein d'avis différents et de ne pas laisser la parole toujours aux mêmes personnes. Donc ça, c'est super important.
Connaissez-vous les conséquences mentales et sociales, comme certains cas, comme il y a eu plusieurs cas du fait que l'image sociale de la personne a été détruite à cause de ça?
Les conséquences sociales sont nombreuses. En tout cas, pour ce qui est de TikTok, de même que les jeux vidéo, on peut tomber dans l'addiction, tout simplement. Autre conséquence qui arrive souvent, moi je connais ça dans les établissements scolaires, cette histoire de nude, désolé de parler comme ça, mais de photos nues qui sont envoyées, qui finissent par être partagées dans un établissement scolaire, la personne qui est victime de ça, si par malheur son visage apparaît et qu'elle est reconnue, elle vit en enfer.
Il y a aussi le côté où sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Snap, on a aussi des modes. Il y en a qui se font du mal aussi dans ce sens-là, quoi, de maigrir, de s'habiller de telle manière, de tout ça. Alors qu'en fait, ça augmente ce truc-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui le font en même temps. Donc on a l'impression que si on le fait pas, on est nul, on est trop grosse, trop gros, on n'est pas beau, on n'est pas à la mode et tout ça. Donc ça peut avoir des conséquences sur notre état mental, tout ça, notre façon de nous voir aussi nous-mêmes.
Et du coup, pensez-vous que les réseaux sociaux sont sécurisés et que tous les parents ont forcément, par exemple, accepté que leur enfant accède à ce genre de réseaux sociaux ?
Je rejoins ce que tu as dit. De par l'expérience et puis même ce qui semble assez logique, tous les parents ne savent pas forcément ce qui se passe sur les réseaux. L'idéal, c'est d'en discuter directement avec la personne concernée, donc l'ado, l'enfant, peu importe. Puisque même à 13 ans, on peut voir des trucs qu'on n'est pas censé voir, même si on respecte l'âge. Juste savoir comment ça fonctionne déjà, avant de donner l'accès peut-être, et de toujours garder le dialogue ouvert. Alors je pense que c'est le plus important, parce que souvent, quand il y a un problème, c'est très difficile d'en parler, mais c'est un peu le seul moyen de résoudre le truc.
Merci pour les réponses. Hein.
Merci à vous.
novembre. On est le 17 novembre 2022.
On est le 18. Autoroute, attention.
On est le 18 novembre 2022 au CDI à Rosa Parks.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, désolé pour la coupure de pont. On a eu un problème technique pendant une interview avec Yacine Latrache.
Bonjour. Bonjour Yacine Latrache.
Bonjour.
Ok, super.
Bonjour Yacine.
Du coup, là, ils sont en train de négocier.
Tu nous entends toujours. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Désolé, il y a eu une coupure.
Là, on n'a aucune solution. Je vais dire.
Solution. Non, mais ce qui est dommage, c'est que ça a coupé alors que ça avait fonctionné.
C'est le faux espoir.
Après, ça s'est enchaîné les vacances et le vendredi férié. Et sinon, ça va ?
Qu'avez-vous fait pendant vos vacances ?
Moi, je veux bien vous rencontrer. Par contre, le foot, c'est pas trop mon truc.
Nous, on a appris que vous avez des vélos. Du coup, on pourrait se rejoindre en vélo à Pontcafino.
Petit retour sur votre dernière carte.
Non, mais en vrai, c'est intéressant ce qu'ils ont dit. Enfin, c'est vrai, il y a pas mal de bons trucs sur TikTok.
Dans les réseaux sociaux, il y a pas que... Enfin, il y a des trucs bien. C'est pas tout en noir.
On remarque dans ce qu'ils ont dit qu'on a tous les mêmes réseaux sociaux. Bah oui, pour parler aux amis ou je sais pas. Regardez ce que les influenceurs y postent.
Moi j'aime bien les vidéos de voyage et tout, les gens qui partent. Enfin j'aime bien les idées qu'ils donnent.
Et Twitter dans tout ça.
Tu regardes quoi comme type de tweet? C'est plutôt politique? C'est plutôt quoi?
Bah ça dépend. C'est ceux qui sont les plus connus.
C'est-à-dire, faut que tu me donnes des exemples, parce que plus connu pour moi, c'est pas plus connu pour toi. Enfin,
par exemple, le Luxembourg.
Le Luxembourg, on parle bien du...
Le Luxembourg. C'est l'Istanbul. Voilà, c'est ça. C'est moi qui l'ai mal prononcé.
J'explique, là.
Ouais.
Alors, l'Istanbul, c'est un pays qui a été créé sur Twitter pour se moquer des Américains parce qu'ils sont nuls en géographie. Et du coup, en fait, c'est la France à l'envers qui a été collée au Portugal. Il y a des cartes qui existent sur Google. Et du coup, il est nommé le Listembourg. Donc, il a des régions, une hymne, un président, des villes, tout ça, pour se moquer des États-Unis qui sont nuls en géographie. Et du coup, ça a fait tourner. Et oui, même, il y a des entreprises connues, certifiées, comme McDo, des trucs comme ça, qui ont tweeté, par exemple... un McDo vient d'ouvrir au Listembourg pour entrer dans toute cette grosse blague pour les États-Unis.
On est parti dans le délire super loin. À la base, c'était juste une petite blague. Et tout le monde est parti super loin dans le délire.
Et vous connaissiez le Listembourg?
On a créé le premier groupe de rap du Listembourg nommé AK44 et constitué de Don Wilk, Songer et Sofra. Suivez-nous sur TikTok, AK-44-du-bas officiel.
Vous avez TikTok, Snapchat, Instagram, Twitter, mais est-ce que vous connaissez Biréel? Donc le but du Biréel, c'est de capturer l'instant présent et après t'as les copains, ils réagissent.
On a continué à s'interroger sur la liberté d'expression. Et on a rencontré une bénévole d'Amnesty International. Elle nous a fait découvrir l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Alors oui, attention quand même, il y a des restrictions. En France par exemple, d'accord, on a la liberté d'expression, mais on n'a pas le droit de faire de la diffamation. On n'a pas le droit d'insulter quelqu'un. On n'a pas le droit de faire de la provocation à la haine ou au racisme. On n'a pas le droit de faire l'apologie de la guerre et du terrorisme, de tenir des propos discriminatoires. Alors ça, vous connaissez la discrimination.
Avant d'interviewer Yacine, on a décrypté une de ses caricatures et on a parlé du clash qu'il y a eu entre un député et Cyril Hanouna de « Touche pas à mon poste ».
Prévenir qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun.
Il y a un député... Et un présentateur de télé qui se sont énervés entre eux parce que le député il a parlé du patron qui dirigeait la chaîne du présentateur de la télé.
Du groupe Bolloré, c'était dans le groupe Bolloré ici.
Ouais, Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme.
Hein, tu viens foutre ici.
Et comment il a réagi le présentateur?
Il a dit on crache pas dans la main qui nous nourrit.
Et après, qu'est-ce qu'il a fait?
Il l'a insulté.
Ah, on n'a pas la liberté.
Tu parles, il ferme ta gueule. Allez,
tais-toi. Non, mais t'es sérieux?
Tu parles, il ferme ta gueule.
T'es sérieux ou quoi?
Allez,
t'es un irresponsable, Cyril. Et toi, tu fais du mal à la France.
T'es un abouti.
Est-ce que vous comprenez ce qui est choquant d'un point de vue de la liberté d'expression?
Ouais, ça me choque pas. Ça m'est arrivé un moment ou un autre.
Pourquoi? Tu peux m'expliquer?
Oh, je sais pas, c'est ma mère qui regarde ça, donc j'ai un peu oublié, mais.
C'est le principe de son émission, c'est de faire les cons, entre guillemets.
Ouais.
Mais après, là, il s'est énervé dans l'extrême un peu. Parce qu'insulter un député, ça se fait pas. C'est comme s'il insultait quelqu'un qui travaille pour la France, quoi.
ce qui est important, c'est vu que c'est le dernier dessin qui a été posté par Yacine, je pense que ça peut être bien qu'on lui pose la question et qu'il nous dise son point de vue par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est une situation qui est très importante. Vous êtes quand même dans une classe média et en fait, cette situation-là, c'est vraiment...
On a décidé d'en parler avec lui.
A priori, bah, Cyril Hanouna, il est assez bien installé dans les médias depuis un certain temps. On voit qu'il invite des personnalités politiques. Je crois qu'il y avait 59% de son audimat qui était consacré à l'extrême droite. En période d'élection, ça a quand même du sens. Quand vous voulez être une émission de divertissement, vous associez la dimension politique, déjà c'est assez particulier. Et je pense que ça appelle à des compétences professionnelles qui ne sont pas les siennes. Et qu'aujourd'hui, tous les politiques ont joué le jeu en passant à son émission, tout en sachant qu'il y avait derrière tout ça des orientations bien marquées. Vous connaissez Vincent Bolloré. L'idée, c'est de vous dire entre CNews, Touche pas à mon poste, C8, etc. On a depuis un certain temps vraiment une idéologie qui s'insémine dans chaque émission. Pour moi, ce qui est choquant, c'est de pouvoir avoir des personnes qui déjà, non seulement utilisent un langage qui n'est pas du tout approprié, qui est discriminant, dans le sens où on a attaqué le personnage de Louis Boyard sur son parcours, sur son identité de député, sur l'idéologie, sur son coup d'éclat, alors que la parole, elle est libre, elle est représentative. Chose qui n'est pas le cas de Cyril Hanouna.
Un coup d'éclat, ouais.
Mais c'est
très bien.
Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat, t'es en train de dire à un élu de la République.
Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi.
Mais t'es responsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse,
c'est que je vais me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi? Mais
moi j'ai fait la présidence,
moi j'ai fait mon délire, moi j'ai fait mon délire, moi j'ai fait 7%.
Donc c'est un vrai choc, non seulement sur le plan moral, mais aussi sur le plan des valeurs républicaines. Et ça interroge vraiment la posture qu'on a, nous, en tant que spectateurs, d'assister à ça et de trouver une réponse adaptée. Parce que ça mélange un peu un côté... C'est-à-dire qu'il y a une certaine proximité avec le public et certaines personnalités que je trouve assez particulière. Hein. En fait, la gloire de l'audimat, comme ça, en faisant des coups d'éclat et en la culture du buzz à ce niveau-là, c'est hyper inquiétant. Bah, je trouve qu'il met pas mal en lumière justement les failles qu'on retrouve dans les médias par exemple et dans certaines idéologies qui sont alimentées. Évidemment, la question qui est soumise au gouvernement actuellement, elle est primordiale pour votre génération et pour celles qui vont succéder. C'est la question de pouvoir protéger cette liberté d'expression, protéger aussi la nature même de la démocratie. À partir du moment où vous avez des forces suffisamment puissantes qui s'approprient les champs médiatiques de façon assez globale, j'ai envie de dire, on limite la diversité, on limite aussi le pluralisme des idées, on permet à des idéologies de s'instaurer facilement dans notre société, progressivement d'ailleurs. Et on voit bien qu'il y a des individus qui sont prêts à y contribuer. Sachant que ça n'a pas permis de mettre en avant le sujet majeur qui était évoqué dans cette thématique, dans cette émission d'ailleurs, qui était tournée vers la crise migratoire. Et ce qu'il en résulte, c'est qu'on repose des questions sur les fondements de la liberté d'expression, sur les médias, mais on ne répond pas forcément au sujet central, qui était notre rapport aux droits de l'homme, aujourd'hui en tant qu'Européen et en tant que Français.